au 99.1 88.9 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Édition de ce 29 mai, le député fédéral de Berthier-Massillonger, Yves Perron, vient nous parler de gestion de l'offre. La présidente des Amis de l'environnement de Brandon, Odette Sarrazin, vient faire son tour. Le porte-parole de l'Association des professionnels de chauffage d'appoint est pas content à propos de Terrebonne, c'est Louis-Pierre Côté. Caroline Babin, la présidente du Festival Cultura Expo Rive-Nord, viendra nous donner de ses nouvelles. On parlera également avec Hugo Deligny, le président de Hugo Cycle. Et évidemment, le petit commentaire de Jacques Plante en fin d'émission. Mesdames, messieurs, je vous en souhaite une très bonne. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien chez vous, malgré la température qui se gâte un peu. Et oui, on approche du week-end. Je l'ai dit en début de semaine, on va voter pour avoir nos congés les lundis et mardis, à l'habitude, parce que c'est là qu'il fait vraiment beau. J'aimerais vous présenter le député fédéral de Berthier-Masquilonger, puisqu'il a beaucoup été question de la gestion de l'offre aujourd'hui à Ottawa. Le Bloc qui a redéposé une nouvelle mouture de son projet de loi sur la gestion de l'offre, et ça vise également à protéger les productrices et les producteurs agricoles afin qu'ils ne soient pas trop malmenés par les accords de libre-échange. Et François Morin en parle avec le député de Berthier-Masquilonger et porte-parole de son parti en matière d'agriculture, Yves Perron.
Yves Perron, il y a eu beaucoup de questions de la gestion de l'offre. D'abord, dans un premier temps, votre parti a redéposé aujourd'hui, en fait, le chef a redéposé le projet de loi qui s'appelle maintenant C-202 concernant la gestion de l'offre. Là, tout le monde souhaite que, de votre côté, que cette fois-ci, ce sera la bonne.
Ben oui, en fait, on le redépose. On est dans l'obligation de le redéposer parce qu'on se souviendra que les sénateurs, donc un groupe de personnes non élues, ont tenu en otage ce projet de loi-là pendant 21 mois. Puis en bout de piste, quand la poignée d'opposants s'est rendu compte qu'on allait gagner le vote final, ben ils se sont arrangés pour que le vote n'ait jamais lieu. On parle de 8-9 sénateurs, là. C'est pas. C'est pas acceptable, évidemment. C'est un déni de démocratie. Fait que nous, on dit, ben là, on recommence. Puis on va entamer des négociations avec les autres partis pour obtenir le consentement unanime afin qu'il soit passé en mode express et qu'il soit retourné immédiatement au Sénat. Donc, d'ici la fin de juin, hein, si tout va bien, sinon à l'automne, mais l'idée, c'est de lancer cette démarche-là. Et c'est ça, histoire de donner du poids aussi au projet de loi, on a choisi de le faire déposer par le chef, appuyé par moi.
Et M. Blanchet a mentionné lors du point de presse que des discussions seront effectivement menées avec le premier ministre là, pour qu'il comprenne bien les enjeux du Québec.
Absolument, absolument. Et le premier ministre, ce matin, en réponse à une période de questions à la suite de son discours sur le discours du trône, a répété que la gestion de l'offre ne serait jamais sur la table et qu'il a mentionné qu'il recadrait avec une grande attention notre projet de loi. Donc, on est assez optimiste pour l'instant.
Et dans la même veine, il y a un sondage léger qui dévoile que les Québécois sont très inquiets de voir des produits laitiers américains entrer davantage sur les tablettes. Et là, bien évidemment, on parle des enjeux liés au libre-échange.
Il y a une partie de ça qu'on ne pourra pas contrôler, parce qu'à terme, les quotas d'importation qui ont été octroyés dans les concessions des négociations des traités antérieurs, que ce soit avec l'Europe, le Transpacifique ou l'ASEUM avec les États-Unis et le Mexique, ne sont pas encore tous occupés. Hein, donc, ils vont une légère croissance encore des produits étrangers sur nos tablettes jusqu'à 18 % à terme là, dans le lait qui est le secteur le plus touché. C'est pour ça que nous, on a décidé de mettre un haut là, un frein à tout ça, là, puis de dire là, à 18 % c'est déjà énorme. Nos citoyens n'en veulent pas. Vous venez de me le démontrer avec le sondage que vous citez. Et nous autres non plus. Et nous, on veut conserver nos producteurs dans nos régions qui assurent le dynamisme de nos régions. Alors, tout ça, ça va ensemble. Puis notre projet de loi fait bien du sens avec tous ces éléments-là mis dans le panier.
Alors justement, d'où l'urgence de l'adopter, ce projet de loi-là, parce que les prochaines négociations sur le libre-échange, ça s'en vient, là, ça se prépare.
Et voilà. Et c'est pas comme si on avait commencé hier, hein, M. Morin. Là. Nous, on a ce projet de loi-là, le premier s'appelait 216 en 2019. Là. Fait que c'est 6 ans qu'on est là-dedans. Donc, que des sénateurs décident de prendre en otage un projet de loi pendant 21 mois, nous, c'est pas une fin qui est acceptable. ou la reprise des travaux.
Moi, je trouve ça important, la gestion de l'offre, entre autres pour le lait, parce que Pépère, qui vous parle ici, prend toujours son petit verre de lait vers 2-3 heures du matin. Alors, j'ai pas le goût de boire du lait américain, j'ai plus le goût de boire notre bon lait à nous. On y va avec la prochaine entrevue.
Lanaudière PM. Environnement.
Eh bien, tant qu'à parler d'environnement, parlons à la militante, l'une des militantes pour l'environnement les plus engagées dans la région. C'est assurément, vous l'aurez reconnu, Odette Sarrazin. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a quelques jours lors d'une activité de distribution d'arbres à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et vous allez constater qu'elle est toujours une grande passionnée par son engagement citoyen.
Je pense que tout le monde, on est bien conscient qu'il y a une crise climatique, il y a une crise de biodiversité, que l'environnement, présentement, a besoin de verdure. En tout cas, on pourrait parler longtemps là, de la politique du projet de loi présentement sur la table sur le régime forestier, le nouveau régime forestier. Là,
qu'est-ce qui accroche dans ce projet de loi-là?
Bien, qu'est-ce qui accroche, c'est que on donne beaucoup de forêts à l'industrie forestière.
Pour la coupe.
Pour la coupe. Et en tout cas, ça met à mal des aires protégées, parce que là, on donne la permission d'aller couper dans des aires protégées. En tout cas, c'est des dossiers complexes, hein. C'est difficile de vous dire ça comme ça, là.
C'est quand même important, l'industrie forestière, non?
Ben oui, mais ça dépend. C'est toujours comment c'est fait. C'est la façon de gérer nos ressources au Québec, là. Présent, on a un problème, je pense, à plusieurs niveaux, là, là-dessus.
Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup trop de coupes à blanc?
Ben, je dirais oui. Si on regarde les projets, tu sais, les projets miniers, des projets d'Hydro-Québec, les projets, tu sais, on coupe. Des coupes à blanc, ben, je pense que oui, si on regarde par les drones qui nous montent par le ciel.
Dans certaines régions, oui.
Ben, certaines régions, puis c'est qu'il faut que des citoyens soient là pour protéger certains milieux, puis qu'ils regardent, faut voir venir. Comme à Saint-Damien, il y a un projet là, d'air protégé là, qui a été amené au gouvernement, parce qu'on veut protéger des bouts de forêt pour les garder le plus intact possible, parce qu'on a besoin de forêts anciennes aussi, tu sais, fait que comme je vous dis, c'est des sujets complexes, hein, ça se gère difficilement dans un salon en train de chialer, là. Faut aller sur le terrain, là.
Vous pensez qu'il doit y avoir un équilibre, c'est ça?
Ben oui, parce que c'est que présentement, les industries qu'on a sur le terrain, sur nos terrains pour différents aspects, ils sont là pour l'argent. Tu sais, ils sont pas là pour le bien de la collectivité, puis tout ça, là.
Il reste qu'on est dans une société capitaliste.
Ben, c'est ça. Puis c'est toujours pour exporter, puis toujours envoyer ça à nos voisins. Puis, en tout cas, donc, c'est des sujets complexes. Je dois dire que c'est pas facile à répondre.
Odette Sarrazin, sans dévoiler votre âge, il reste que vous lâchez pas. Il reste que, malgré le temps qui avance, vous êtes quelqu'un toujours impliqué à fond. Qu'est-ce que vous allez donner comme héritage? Qu'est-ce que vous seriez satisfaite de laisser?
Ben moi, c'est de former. C'est qu'il y a des comités citoyens dans chaque communauté, que dans chaque village au Québec, on a un noyau. Je ne demande pas des dizaines, des centaines de personnes, là. Un noyau de citoyens qui soient à l'affût des projets avant qu'ils arrivent, être en amont des projets. Pour pas avoir à gérer, puis les meilleurs exemples, parce que moi, j'ai vécu des succès dans ma vie, fait que donc, c'est facile pour moi d'en parler aujourd'hui, mais c'est ça, tu sais, si les citoyens avaient pas été là en 2010 avec les puits de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, ben il y aurait 20 000 puits de forêt dans la vallée du Saint-Laurent, mettant à mal l'eau, nos eaux souterraines. Il y avait TransCanada Énergies en 2013 jusqu'à 2018 qui nous ont tenus en haleine pendant ces nombreuses années. Mais comme il y avait les comités citoyens puis qu'on s'est tenus debout, c'est que là, présentement, on a des gouvernements qui sont à la merci des lobbyistes.
Là, il y a un petit relâchement. Là, on parle encore là, d'un... d'un oléoduc qui traverserait le Canada d'est en ouest?
Oui, puis en passant par le nord, fait que c'est pas mieux, là. Fait que donc, c'est sûr que là, nous autres, on est déjà mobilisés, il y a déjà des gens, on est là-dessus, là, présentement, parce que ça passe pas, là. C'est sûr qu'on va se remettre en marche, on va, malgré tous les autres projets qu'on a sur la table, mais... Oui, c'est jamais terminé. C'est ça qui est intéressant, parce que pour moi, si ça garde mon cerveau actif puis mon cerveau en santé, ben écoute, on va en prendre des défis là.
Odette Sarrazin, merci beaucoup. Si j'étais le président ou le responsable du projet de l'oléoduc, je me le tiendrais pour dit. Dans un instant, on va parler de chauffage au bois. On sait que Terrebonne vient de passer une nouvelle loi qui défend les poêles au bois, même ceux qui sont homologués. Alors, on en parle avec l'Association des professionnels du chauffage d'appoint.
Les rénovations seront bientôt terminées au nouveau Maxi Saint-Michel-des-Saints situé au 110 rue Brassard. Découvrez l'expérience complète lors de la grande ouverture le jeudi 5 juin. C'est un rendez-vous pour de la fraîcheur, des offres exclusives et plein de bas prix.
Envie de vivre une expérience culinaire? Découvrez le bistrot La Cache du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. Sur le menu, vous retrouverez des plats savoureux conçus avec des produits de chez nous soigneusement choisis et une belle sélection de bières, vins et cocktails. En semaine, optez pour le menu du jour et profitez d'un festin à petit prix. Trois choix de repas à partir de 18 $ avec potage et dessert inclus. Le week-end, débutez votre journée avec un bon déjeuner entre 8h et 11h30. Réservez dès maintenant au bistrot La Cache du Lac au 450-271-8217 ou en ligne à cachedulac.com.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la Poste.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Joliette, Saint-Cléophas de Brandon, Entrelacs, Saint-Félix-de-Valois.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Chez nous, on s'en laisse point poser. La musique américaine, on n'en joue plus.
La Naudière PM. Environnement.
C'est vraiment une première demi-heure axée sur l'environnement. L'Association des professionnels du chauffage d'appoint est en furie. Mon père dirait ou disait à l'époque, étant Saint-Régiboire, à l'endroit de la ville de Terrebonne, cette dernière met en application de nouveaux règlements qui interdisent l'installation d'appareils de chauffage au bois certifiés sur son territoire au lieu de viser le remplacement des vieux appareils de chauffage non certifiés et qui sont nettement, selon eux, plus polluants. François Morin discute des impacts de ces règlements avec le porte-parole de l'association Louis-Pierre Côté.
Alors, Louis-Pierre Côté, du côté de votre association, on est un peu en furie, peut-être sûrement avec raison, c'est que la ville de Terrebonne a adopté une nouvelle réglementation qui interdit l'installation, l'utilisation de nouveaux appareils de chauffage d'appoint alors que les vieux demeurent en place.
Oui, on trouve malheureux le choix de la ville de Terrebonne. Particulièrement parce qu'on ne croit pas qu'on attaque le problème et qu'on améliore la qualité de l'air. Pour la raison que les appareils qui aujourd'hui émettent des particules fines, qui pour certains des appareils en utilisation sont des appareils non certifiés, émettent les particules présentement. Alors, demain matin, ces appareils-là qui sont en utilisation vont encore émettre ces particules fines-là. Alors, présentement, ce que la ville de Terrebonne a décidé de faire, c'est de dire qu'on ne peut plus installer de nouveaux appareils. Des appareils qui pourtant sont certifiés. Et des appareils certifiés, c'est des appareils qui émettent des émissions de particules qui sont en bas de 2,5 grammes/heure lors de la certification, alors que des vieux appareils, on peut parler d'émissions de particules qui peuvent monter jusqu'à 40 grammes/heure en utilisation. Alors, on croit que la ville de Terrebonne n'attaque pas le bon problème pour améliorer sa qualité de l'air.
Et est-ce que cette réglementation-là, parce que Terrebonne se targue d'avoir été précurseur dans le domaine, risque de faire le tour de la province?
On a discuté avec plusieurs autres municipalités, villes, entre autres au niveau de la CMM, et la plupart des municipalités se dirigent vers une réglementation qu'on croit qui est beaucoup plus cohérente, vise justement à favoriser le changement des appareils d'ancienne génération pour des appareils certifiés aujourd'hui, donc les appareils certifiés EPA. Donc, présentement, Terrebonne se dirige vraiment dans un avenue qui est différent du mouvement comme les villes de Québec ont fait les villes de Laval. Et on pense que c'est réellement une erreur. Faut voir que il y a quand même des gens qui viennent en boutique dans nos membres, puis les gens sont intéressés à utiliser le chauffage au bois. Puis pour des raisons valables, hein, vous savez, c'est une source de sécurité quand même. Hein. Si jamais il y a une panne de courant, d'avoir l'opportunité de se chauffer avec un chauffage d'appoint de nos jours, c'est important pour plusieurs personnes. Le chauffage au bois aussi, là, ça contribue au niveau des sources énergétiques pour la province et aide à ce moment-là à réduire les pointes de consommation électrique en hiver. Alors, plusieurs personnes désirent avoir accès à un appareil de chauffage et on trouve malheureux qu'avec le règlement, quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas d'appareil de chauffage d'appoint à Terrebonne ne peut plus s'en installer.
Ce que je comprends du communiqué que vous avez émis, ben, de toute façon, c'est assez clair, c'est que Terrebonne n'a pas vraiment consulté non plus avant de mettre en vigueur cette réglementation-là.
La consultation a été annoncée pratiquement une semaine à l'avance. Il n'y a personne qui s'est présenté à la consultation et ça n'a duré que 15 minutes. On croit que les gens n'ont pas eu l'opportunité de donner leur opinion et on croit que si c'était possible pour les gens d'émettre leur opinion, il y aurait des gens qui seraient plutôt en faveur de conserver le droit de s'installer un appareil de chauffage.
Est-ce que la porte est fermée du côté de Terrebonne? Est-ce qu'il y a des pourparlers à venir ou vraiment là c'est terminé?
Nous, on a discuté avec la ville avant qu'ils décident d'aller de l'avant avec leur réglementation. On leur a expliqué pourquoi on croyait qu'ils devaient plutôt viser les appareils existants qui n'étaient pas certifiés. Ils ont décidé d'aller de l'avant malgré tout sur leur réglementation. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est important d'en parler aujourd'hui, de parler au public, de dire on croit que ça fait fausse route, puis c'est important que les gens puissent donner leur opinion.
Compte tenu justement des démarches que vous faites aujourd'hui de rendre ça sur la place publique après ces discussions-là, est-ce que Terrebonne pourrait se retrouver seul dans son coin?
Présentement, ils sont les premiers ou presque au Canada à mettre une réglementation qui sont comme ça, à l'exception de peut-être un ou deux autres endroits. Donc, le mouvement est beaucoup plus pour se diriger vers quelque chose de cohérent où ce qu'on favorise le remplacement des nouveaux appareils et nous on prêche pour que justement au niveau du Québec au complet on puisse aller chercher une réglementation qui serait homogène. Faut pas oublier qu'en mettant une réglementation complètement différente, ça vient créer beaucoup de confusion, hein. Les gens à ce moment-là n'ont pas nécessairement l'opportunité de comprendre la réglementation de chaque ville au Québec. Donc si on peut s'en aller vers une réglementation qui cohérente, qui est la même, qui est homogène, bien tout le monde, on va se comprendre puis ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là de...
Lanaudière PM culturel.
La 58e édition du Festival Cultura Expo Rive-Nord se tient au centre-ville de l'Assomption du 27 au 29 juin prochain. Et encore une fois cette année, les festivaliers pourront apprécier les exposants du monde agricole et assister à des conférences, même une conférence de la sémillante Sœur Angèle, le grand fantasme de mon collègue Nicolas Bellemare. Il y a des spectacles également. Régent Turgeon a rencontré la présidente du festival, Caroline Babin.
Madame Babin, une 58e édition cette année du Festival Cultura Expo Rive-Nord. Pourquoi c'est important de mélanger la culture et l'agriculture?
Oui, dans le fond, l'important, c'est que les gens de tous les jours, les gens de l'Assomption et des environs puissent connaître les agriculteurs de chez nous. Et je trouve que c'est vraiment un beau mariage de faire la culture, donc les spectacles et tout, avec l'agriculture, pour que tous les gens puissent connaître. Ça va rejoindre tout le monde, en fait.
Et là, cette année, il y a une grande nouveauté. C'est de votre initiative. On parle d'une nouveauté immersive, le musée à ciel ouvert de l'agroalimentaire de Lanaudière. Ça veut dire quoi, ça, concrètement?
Oui, dans le fond, ça va être un musée à ciel ouvert qui va nous faire découvrir les bases. Dans le fond, d'où vient l'agriculture de chez nous? Je voulais qu'on retourne à la base. Dans le fond, d'où ça part, ça, les expos agricoles, les histoires de grandes fermes de la région et tout. Puis ça va être à travers plein d'activités à l'extérieur. Je crois que ça va être quelque chose à pas manquer.
Et dans les activités, dans la programmation, il y a des choses qui reviennent, il y en a qui s'ajoutent. Je pense dans un premier temps au jugement d'animaux. Là, c'est important. Les lapins ont fait beaucoup jaser l'année passée.
Effectivement, les lapins ont fait beaucoup jaser. On triple la grandeur de tente cette année pour accueillir les lapins. Donc, on en entend encore plus. L'année passée, on avait eu 200. Donc, on s'entend à plus cette année avec des juges à travers l'Amérique du Nord. C'est pas rien. Hein? On retourne aussi avec nos jugements de bovins, hyper importants. Hein? C'est quand même l'année dernière, on avait 90 têtes, donc on ose espérer encore cette année la même chose. On va avoir, ce n'est pas un jugement, mais on va avoir quelqu'un qui va venir expliquer, dans le fond, ce que c'est l'élevage de chèvres Boer. C'est nouveau cette année. Donc, c'est ça. Non, mais c'est ça, je voulais juste aussi dire qu'il y avait la circole aussi, les concours à circole, très important pour nos producteurs de sirop d'érable.
Une grande personnalité québécoise, une institution qui sera de passage également. Je vous laisse nous la nommer.
Oui, on va avoir en conférence Sœur Angèle, la Sœur Angèle, oui. Donc, dans le week-end, elle va venir faire une conférence, elle va nous donner des recettes et expliquer son parcours aussi. Je crois que ça va être quelque chose à pas manquer.
Le volet culturel, là, ça prend des artistes, là, faire danser puis faire chanter le monde. Et il y en a quelques-uns, là, puis c'est pas les moindres, là, on peut les citer, là.
Oui, dans le fond, on a deux frères. On a Laurence Saint-Martin. On va avoir la chorale du Vieux-Palais de Marie-Annick Lépine qui va faire des chansons avec Alpha Rococo. Puis on va avoir aussi, en finale, Pelch. Oui.
Un élément important, l'allée des exposants. Il y en a 45 cette année, c'est quand même gros.
Oui, c'est un record. Donc, à chaque année, donc on a toujours des nouveaux exposants. Et cette année, je suis très fière, là, on a 45 exposants. Donc, je crois que ça va être vraiment une belle édition.
Les partenaires, les bénévoles, ils sont là encore cette année. Il y en a des majeurs, là.
Oui, dans le fond, Desjardins, Chevrolet. Là, je ne veux pas les oublier, mais on a comme nouveauté la famille Limoges qui va comme partenaire majeur, qui est très présent à l'Assomption. Puis c'est ça, faut pas oublier, dans le fond, tous les bénévoles et le comité organisateur et le CA là, qui nous aident beaucoup là-dedans.
On peut penser que l'événement est là pour rester. Vous avez des ententes avec la ville de l'Assomption. Ça va être renouvelé, ces ententes-là?
Ah, j'espère bien. Présentement, on est en négociation, mais c'est pas des grosses négociations, c'est juste des petits trucs là qu'il faut ajuster. Mon but à moi, c'est de renouveler pour les 3 prochaines années ici à l'Assomption.
Et c'est important pour le développement économique, touristique, et évidemment, faire connaître l'agriculture.
Et voilà, vous avez tout dit, c'est vraiment ça, faire connaître l'agriculture aux gens d'ici et de tous ceux qui vont venir visiter là, notre belle expo Cultura Expo Rive-Nord.
Du 27 au 29 juin.
Oui, ici à l'Assomption, dans le centre-ville.
Et on a une adresse Internet pour savoir quelle sera la programmation et où on peut la consulter.
Oui, dans le fond, on a une page Facebook Expo Rive-Nord, sinon exporivenord.ca, puis vous allez pouvoir voir la programmation à cette place-là.
Bougez pas, on s'informe avec François Morin dans un instant.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Va vous dire que d'abord, la 40 Est s'élan de Bourget jusqu'au pont d'étagement du CN de Charles de Gaulle à la 640 aussi. En direction ouest, c'est compliqué, secteur Pantigny de Valmont jusqu'à Benjamin Moreau, puis on demeure nombreux jusqu'à la 640. La 640 Est, compliquée de la montée du Mai à l'autoroute 40, direction ouest, on est un peu nombreux aussi entre l'autoroute 40 et la montée des Pionniers. 25 Nord, c'est compliqué à partir de l'échangeur Anjou, mais vraiment au ralenti du pont Payan au pont de l'île Saint-Jean, on demeure nombreux presque jusqu'à la 125. Parlant de la 125, on traverse à vitesse réglementaire sur Sophie Masson. De l'autre côté, c'est compliqué jusqu'au chemin Sainte-Marie et ça va bien 138 Est vers Repentigny pour le pont Le Gardeur. On est un peu nombreux cependant dans le coin du parc de l'île Lebel, donc un peu plus loin sur Notre-Dame dans Repentigny.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Marché Express Ultramar Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra et Marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'Expert dépanneur, Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imri, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur la appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
Avec C'est ma vie, Guylaine Tanguay se livre à cœur ouvert à travers les plus grands classiques country et ses propres chansons.
Ça vient de loin.
Un spectacle intime, rempli d'émotions et d'authenticité, le 6 juin au Centre culturel Desjardins. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com. Une présentation de la source Bain Nordique.
Les cowboys et cowgirls de la région sont invités au Rodéo Lanaudière du 30 mai au 1er juin pour une troisième édition mémorable. Présentée par Joliette Jeep Dodge, SWE Échafaudage et le groupe Alpha. À Sainte-Béatrix, assistez à une compétition de Gymkhana toute la fin de semaine en collaboration avec Arel. Et on termine les soirées avec Bucking Ranch Radio et des épreuves de Bullmania. Sur place, profitez de la cantine, du bar, de la zone famille, de l'ambiance festive, de la danse en ligne et du camping sans service. Billets disponibles sur Facebook à Rodéo Lanaudière. Encore plus de place pour vous accueillir.
Comme c'est l'habitude de cette heure-ci, on retrouve le journaliste et directeur de l'information chez nous, François Morin.
J'en demande pas tant, mais bonne fin d'après-midi.
Je veux un autre, on peut ajouter d'autres titres, si vous voulez. À Ottawa, le Bloc québécois persiste et signe.
Oui, c'est parce que le Bloc québécois a redéposé ce matin son projet de loi pour protéger la gestion de l'offre, dis-je bien. Et puis, comme on dit en bon québécois, tout est dans tout. Il y a un sondage léger qui a été publié aujourd'hui par les producteurs de lait du Québec et qui indique que 94 % des répondants jugent qu'il est important pour le Canada de protéger la sécurité alimentaire en encourageant une production locale d'aliments. Et le même sondage indique que plus de 80 % des participants s'inquiètent également que des produits américains remplacent les produits laitiers canadiens, alors que les normes et la réalité de production diffèrent largement au sud de la frontière. Alors, il y a le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture et agroalimentaire, Yves Perron, qui a mentionné évidemment qu'il est urgent d'adopter le projet de loi. Alors, on l'écoute.
Les quotas d'importation qui ont été octroyés dans les concessions des négociations des traités antérieurs ne sont pas encore tous occupés. Hein. Donc, il va y avoir une légère croissance encore des produits étrangers sur nos tablettes jusqu'à 18 % à terme là, dans le lait qui est le secteur le plus touché. Nos citoyens n'en veulent pas. Vous venez de me le démontrer avec le sondage que vous citez. Et nous autres non plus.
Au sujet de la crise du logement, la ministre France-Hélène Duranceau est encore prise à partie.
Cette fois par la députée de Terrebonne, la péquiste Catherine Gentilcœur. Alors, elle a réagi, Mme Gentilcœur, à une proposition de la ministre France-Hélène Duranceau d'augmenter le loyer des gens qui habitent des logements abordables si leur situation financière s'améliore. Alors, Mme Gentilcœur est pour le moins catégorique. C'est une solution à courte vue, selon elle.
Je pense, en fait, que c'est de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que, évidemment, que peut-être qu'à terme, ça va permettre de libérer certains logements, là, dont du fait que les gens vont payer plus cher pour un logement qui vaut moins cher finalement. Mais le vrai problème ici, c'est le manque de logements abordables. Puis avec l'abolition d'accès logis, avec le FAQ qui remplit absolument pas ses cibles, il se passe pratiquement rien dans ce programme-là. Le vrai enjeu ici, c'est d'avoir de nouveaux logements abordables, accessibles.
Le feu est pris à Terrebonne. La réglementation sur les chauffages d'appoint passe de travers.
Passe de travers dans la gorge de l'Association des professionnels du chauffage d'appoint. En fait, l'association déplore ce qu'elle qualifie d'incohérente et inefficace l'approche de la ville de Terrebonne qui adopte des règlements qui visent à interdire l'installation d'appareils de chauffage au bois certifiés sur le territoire au lieu de viser le remplacement des vieux appareils de chauffage non certifiés et nettement plus polluants. L'association invite donc la ville à faire marche arrière et à adopter une réglementation fondée sur la science. Il y a le porte-parole Louis-Pierre Côté à qui on a parlé qui ajoute que les nouveaux appareils viennent appuyer les efforts de réduction de la consommation d'électricité.
Il y a plusieurs personnes qui le voient comme une sécurité dans leur maison. Il y a aussi l'opportunité d'utiliser ces appareils-là comme au niveau de l'offre énergétique du Québec, puis d'aider à réduire les pointes énergétiques ou de consommation électrique. Donc, dans ce sens-là, de priver les citoyens de l'opportunité de s'installer un appareil chez eux, on pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de gens qui seraient en désaccord avec ce règlement-là.
Un bel exemple de collaboration entre le municipal et le scolaire.
Oui, la ville de l'Assomption qui annonce l'ouverture dès cet automne d'une nouvelle succursale de la bibliothèque Christian-Roy au cœur de l'école Garot dans le secteur Saint-Gérard-Magella. Selon le maire Sébastien Nadeau, la nouvelle bibliothèque va devenir un carrefour du savoir, de l'inclusion et de rencontre et le projet s'inscrit effectivement dans le cadre d'un partenariat avec le Centre de services scolaires des affluents. La bibliothèque sera donc dédiée aux activités d'école le jour et ouverte à l'ensemble des citoyens en soirée, de même que les fins de semaine. L'ouverture grand public est d'ailleurs prévue le 27 septembre et il y a d'autres détails sur la programmation d'ouverture et les services qui seront proposés. Ce sera tout ça dévoilé au cours des prochaines semaine par l'entremise des canaux de communication de la ville de l'Assomption.
Et en terminant, le Bureau des enquêtes indépendantes ferme rapidement un dossier.
Oui, en fait, c'est relativement un événement survenu le 27 mai impliquant des policiers de la Sûreté du Québec et ça s'est produit du côté de Rawdon. Ce soir-là, il y a les policiers de la SQ qui ont intercepté un véhicule qui était suspecté d'être impliqué dans un dossier de fugue. Et lors de l'intervention, le passager du véhicule a été questionné à l'extérieur et il s'est couché dans le fossé, mais là, il a perdu connaissance. Alors, les policiers ont fait appel à des paramédics et prodigué en attendant les premiers soins. À l'hôpital, on n'a constaté aucun traumatisme majeur. Alors, le BEI en est venu à la conclusion que les blessures ne sont pas reliées à l'intervention policière. Alors, c'est pourquoi on a fermé le dossier.
Alors voilà, ça complète.
Et oui, et d'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM Transport.
Il est 16h38. Il est beaucoup question de démocratiser la mobilité durable au Québec et dans Lanaudière. Dans ce contexte, il y a une entreprise spécialisée, je vous l'avais dit un peu plus tôt cette semaine que ça me parlait, dans l'électrification des vélos. Je ne sais pas s'ils peuvent prendre ton vieux vélo puis l'électrifier peut-être. Alors, ça s'appelle Hugo Cycle ou Hugo Cycle et son président, moi j'aime mieux le dire en français, hein, pas ça, et son président Hugo Deligny a fait le choix stratégique d'ouvrir un deuxième atelier, cette fois à Mascouche, pour répondre à une demande sans cesse croissante. Notre collègue Régent Turgeon a rencontré Hugo Deligny.
Monsieur Deligny, Hugo Cycle, c'est pas dit, hein, ça fait déjà quelques années que ça existe. Peut-être nous faire un petit peu la genèse de votre entreprise.
Alors oui, tout à fait. Au début, la compagnie, c'est venu du fait que j'avais besoin d'un vélo électrique. Puis, je trouvais que le marché était vraiment polarisé entre soit des vélos bas de gamme, composants bas de gamme, batterie bas de gamme, moteur dans la roue, qui n'est pas vraiment idéal, et de l'autre côté, les grandes marques très connues qui offrent des produits certes très bons, mais souvent inaccessibles. Fait que notre idée, ça a été de démocratiser un petit peu le vélo électrique par l'ajout de trousses d'électrification sur les vélos que les gens avaient déjà. Souvent, c'est des vélos qui font à leur morphologie. Et donc nous, on fait juste installer un moteur et une batterie de première qualité sur le vélo qu'ils ont déjà.
Donc c'est ça la particularité, je peux avoir un vélo ordinaire, là, 3 vitesses, 8 vitesses, et vous m'installez un système électrique là-dessus.
Exactement, donc c'est ça qu'on fait depuis maintenant 5 ans, puis c'est très populaire, c'est vraiment très très populaire.
Il y a une demande là, pour les vélos, et les vélos électriques, on parlait d'une augmentation de votre chiffre d'affaires de 230%, c'est réaliste?
Oui, c'est tout à fait réaliste, mais c'est sûr qu'une compagnie comme nous répond vraiment à un besoin. Quand j'ai voulu faire mon premier vélo pour moi, pour mon besoin personnel, j'ai cherché qui faisait ça, puis j'ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que je me suis mis là-dessus. Puis au début, je voulais juste faire ça comme un sideline, mais finalement, ça a grandi. Puis en tant qu'entrepreneur, je suis un gars qui est beaucoup ouvert de compagnie dans d'autres domaines. Ben, j'ai toujours voulu nourrir la compagnie, c'est-à-dire s'il y a de la demande, ben, il faut que j'y réponde. Et donc c'est pour ça que la compagnie a autant grandi. Puis on a eu une petite chance parce que même que j'avais un autre travail à côté, pendant la pandémie, ben j'avais pas vraiment de travail, fait que j'ai eu le temps de m'en occuper et de faire grandir. Alors c'est sûr que les deux premières années, on a même eu des ruptures, on était en rupture, on faisait des listes d'attente, puis on continuait de vendre, enfin on faisait nos listes d'attente, puis on vendait, puis les gens attendaient, puis ils attendaient leur trousse d'électrification.
Il y a des voix qui se sont élevées récemment pour peut-être dénoncer, si on peut dire un grand mot, dénoncer, que certains vélos électriques avec leur batterie ou lithium pouvaient poser des dangers. C'est vrai ça ou on en prend puis on en laisse?
Ben, on en prend et on en laisse, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie, c'est principalement la qualité des cellules et tout autant la qualité du montage. Donc c'est sûr que si on prend un circuit court et qu'on achète quelque chose sur en ligne et que on sait pas ce qu'il y a dedans ni comment c'est fait, on s'expose à un risque. Mais au final, sur le nombre total vendu de vélos à travers le monde de vélos électriques, c'est quand même assez rare. Je dirais il y a quasiment un parallèle avec un avion, d'être dans un crash d'avion, il y en a très peu. Les millions et les millions de vélos qui sont vendus, c'est assez rare. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention à. C'est surtout la qualité du montage qui peut être problématique. Donc, quand vous voyez une batterie, c'est comme si vous aviez un Tupperware. À l'intérieur, il y a des cellules. Fait que c'est ce qui est dedans. C'est pas la carrosserie. C'est vraiment le moteur de la batterie, donc les cellules et la qualité, comment c'est assemblé à l'intérieur, qui est très, très important.
C'est facile pour vous d'avoir des batteries au lithium là, dans le contexte actuel?
Les batteries au lithium, le seul problème qu'on a eu, c'était pendant la pandémie. Mais encore, ça n'a jamais été trop un problème c'était plus un problème de transport, de coûts qui montaient. Voilà. Mais à part de ça, non, je n'ai jamais eu vraiment de problème à avoir des batteries au lithium.
Et là, vous partez de la Rive-Sud et vous vous installez ici à Mascouche sur une artère très achalandée. C'est un choix stratégique et c'est une ouverture là, quand même aujourd'hui de cette nouvelle deuxième succursale.
Exactement. Donc, quand on a ouvert Hugo Cycle sur la Rive-Sud, moi, j'habite au coin à Saint-Hubert, donc c'est au coin des autoroutes 10 et 30. Voilà. Ça fait 5 ans que nos clients nous demandent. On a une grosse clientèle sur la rive nord. Ça fait 5 ans que la clientèle nous demande d'ouvrir. Ouais. Fait qu'on a décidé de faire le move cette année, d'ouvrir sur la rive nord. Et j'ai choisi un emplacement stratégique qui est Mascouche. Okay. On est quasiment au coin 625 et de l'autoroute 25 et de l'autoroute 640. Ouais. Puis ça nous permet de desservir un territoire qui va aller de Repentigny, voire même Joliette, jusqu'à Boisbriand et Saint-Jérôme au nord, plus toute Laval et le nord de l'île de Montréal.
On parle beaucoup de l'importance du transport aujourd'hui, du transport durable, développement de saines habitudes de vie. C'est dans ce contexte-là que vous voyez votre entreprise?
Ben, définitivement, dans un premier temps, on recycle les vélos de nos clients, donc on leur donne vraiment une deuxième vie. Avec le temps, on a commencé à développer nos propres lignes de vélos, mais on utilise le même système sur les vélos qu'on développe que sur ce qu'on installe sur nos clients. Donc, ça permet soit aux clients de recycler le vélo qu'ils ont déjà, mais on a beaucoup de clients, des fois, ils commencent à avoir une douleur à la hanche, peu importe, ils ont besoin d'un cadre différent de vélo. Ben, à ce moment-là, c'est pas le vélo, on va le remettre dans son état d'origine, on rend systématiquement les pièces originales des vélos qu'on a à nos clients. Puis, on prend le système qu'ils ont déjà acheté, donc leur batterie lithium, leur moteur, leur écran, et on le transfère sur le nouveau vélo.
Parce qu'il faut payer le salaire de celui qui vient, on va aller à la pause publicitaire et avoir Jacques Plante au retour de la pause.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple. Vous arrive-t-il de monter le volume de la radio ou encore de faire répéter votre entourage? Il s'agit peut-être des premiers signes d'une perte auditive. Pour en avoir le cœur net, le dépistage auditif est une excellente première étape. Avec son réseau de plus de 20 centres, les audioprothésistes des centres Maslia sont disponibles pour vous accompagner et vous conseiller. Jusqu'au 30 juin 2025,
Bénéficiez d'un test de dépistage auditif gratuit en composant le 1-800-550-8554 ou en visitant notre site internet centremaslia.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. C'est l'événement Décider et rouler. Procurez-moi un Sentra S Plus 2025 en location 60 mois pour seulement 279 $ plus taxes par mois, avec quota initial de 2 649 $. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Les rénovations seront bientôt terminées au nouveau Maxi Saint-Michel-des-Saints situé au 110 rue Brassard. Découvrez l'expérience complète lors de la grande ouverture le jeudi 5 juin. C'est un rendez-vous pour de la fraîcheur, des offres exclusives et plein de bas prix.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
La SAAQ aurait fermé les yeux sur le non-respect du contrat de Saclic. Risque de fraude, taux horaire injustifié de 350 $ l'heure et des factures incomplètes. C'est assez particulier. Il y a eu un témoignage choc de Jérôme Véraud, l'ancien contrôleur financier de la SAC. C'est troublant. Ça va suivre la Coalition Avenir Québec, je pense, pour le reste de l'année, cette histoire-là.
D'abord, salut Michel.
Bonjour. Excuse, je te mets en contexte, je te dis pas bonjour.
Ça fait une demi-heure que je suis en studio. Non, oui, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que le premier ministre s'est tiré dans le pied quand il se bidonnait à la sortie de son bureau, là, quand il y a souvent un petit scrum avec les journalistes en disant « Arrêtez de me poser des questions, on va faire une commission, ils vont faire toute la lumière là-dessus. » La lumière, elle commence à être drôlement allumée, là.
Il y a beaucoup
parce
de gens...
Parce qu'on regarde ce qui se passe, c'est incroyable.
Il y a beaucoup de gens qui voudraient que ça soit télédiffusé, parce qu'on avait l'habitude avec la commission Charbonneau, avec d'autres commissions qui ont été célèbres. Vous le savez, tu le sais, Jacques.
Et là, non, tu peux me dire vous, hein.
Puis, oui. Tu le sais bien que j'ai pas le droit.
Alors, c'est la régie qui m'a refilé ça dans mes écouteurs.
Bon, le vérificateur général du Québec a révélé que les dépenses prévues de 638 millions pour le projet Saclic allaient finalement dépasser de 1,1 milliard.
L'enveloppe qui a été octroyée là, à cette firme de consultants, là, c'était, on devait entrer à l'intérieur de 458 millions. La job était faite, même qu'on pensait peut-être de faire des petites économies. Sauf que ce monsieur dont tu faisais état tantôt, puis je vous donnerai pas tous les noms, c'est M. Véraud, là, mais il y en a un paquet qui passe, il y en a des méchants, il y a des Véraud, puis il y a des Véraud. Mais ce monsieur expliquait, la facturation arrivait, les consultants, ils regardaient, ils disaient oui, la facture est dans les normes de ce qui doit être fait, ce qui est accepté au gouvernement. Il n'y a pas personne qui les autorise, il n'y a pas personne en nulle part qui les valide, qui les vérifie, de sorte qu'à un moment donné, il s'est aperçu qu'il y a de ces gens-là, je ne dis pas que c'est tout le monde, qui avait un tarif de 82 $ et qui s'est passé du jour au lendemain à 350 $
Écoutez, M. Véraud en question a même dit, écoutez, en bon québécois, c'était une maudite cochonnerie.
Oui, c'est ça, parce que le premier volet de l'informatisation de cette clique, ou de la SAC, de la SAAQ, quoiqu'il y aurait besoin d'une coupe de verre de la SAQ pour passer au travers. Mais c'était au niveau de l'interne, la gestion interne. Et ce monsieur-là, ce qu'il évoque, c'est l'ordinateur devait faire les factures de tout ça, mais il n'y a rien qui marchait. Ah, déjà, ça aurait dû allumer une lumière. C'était en 2019, là. Puis ça ne marchait pas, cette patente-là. Patente à gosse, comme on dit.
Excusez-moi, c'était le royaume du tout croche un peu partout. Moi, je pense surtout, et je vais vous introduire là-dessus, agence des chambres de commerce, les employés de ces... beaucoup de chambres de commerce ont des bureaux d'immatriculation.
Des concessionnaires.
Ouais. C'est une façon pour eux de faire des sous.
Ouais.
Ils engageaient des employés. Ces gens-là ont tenu ça à bout de bras. Littéralement, ça marchait pas. Et même souvent, des solutions venaient de ces gens-là qui travaillaient pour les agences ou pour les chambres de commerce.
Bien, moi, je sais qu'avec, notamment, bon, on le sait, à Berthier, à Saint-Gabriel, c'est comme ça, là, c'est les territoires
Saint-Michel-des-Saints également.
MRC Joliette, MRC d'Autré. Je me souviens d'être allé rencontrer les gens de la Chambre de commerce à Berthier et les gens qui travaillaient au bureau de la SAC et essayaient de travailler, comme on dit par chez nous, à la mitaine, parce que l'informatique était plantée. Mais t'es attaché à l'informatique. Alors, il y avait comme pas le choix de dire, ben il faut fermer le bureau. Et là, évidemment, les gens, ils étaient pas contents, puis avec raison.
Et après ça, ils ont développé des méthodes de travail. Ils rencontraient les gens, fixaient des rendez-vous.
Oui.
Puis ils réglaient les problèmes à mitaine, comme vous dites.
Oui, oui, oui. Mais puis c'est eux qui ont été sur la ligne de feu quand on sait très bien que la merde venait de Québec.
Absolument. Puis c'est eux qui mangeaient des bêtises, excusez l'expression.
Puis quand je regarde qu'est-ce qui se passe actuellement, j'écoute les libéraux qui demandent la tête de Mme Guilbeault. Hein?
Oui.
Tout le monde voudrait avoir la tête à Mme Guilbeault, c'est une belle madame. Mais, tu sais, quand je regarde ça, je ne veux pas la défendre, mais un ministre à Québec ou à Ottawa, il y a un horaire chargé, il y a les commissions parlementaires, est-ce que c'est là-dessus que le gouvernement va se défendre? Parce qu'ils ont inventé une patente qui s'appelle les chefs de cabinet. Pourquoi le chef de cabinet de Mme Guilbeault n'a pas fait des vérifications avec la kyrielle de DG qui sont passés à la SAC depuis 2018-19? Là? Il y en est passé trois. Puis habituellement, quand on nomme des gens à ces postes-là, c'est des tsunamis. Hein?
Et ils sont rarement imputables, vous trouvez pas?
Bien là, il y a un méchant problème. Qu'on regarde ces gens-là qu'on a nommés à la direction, oui, mais d'une part, encore une fois, la personne la plus imputable, selon moi, c'est la tutrice de ce dossier-là, qui est Geneviève Guilbeault.
On verra jusqu'où ça se rendra, cette histoire-là. Jacques, j'aimerais vous amener sur un autre sujet.
Entre-temps, ça coûte beaucoup d'argent, ça met le faux au cul de tout le monde.
Absolument. J'aimerais, parlant de faux cul, j'aimerais vous parler d'un autre sujet. Denis Coderre qui invite les libéraux et les fédéralistes d'Arthabasca à voter pour Éric Duhaime. Que pensez-vous de cette prise de position-là?
Ben, écoute, moi, quand j'ai vu la nouvelle aujourd'hui, j'étais carrément renversé. D'ailleurs, non seulement il invitait les gens, mais il était là-bas, sur place. Il était à côté d'Éric Duhaime. Il est allé donner des poignées de main avec des gens. C'est quelqu'un qui a été député, il a été ministre du côté de la Chambre des communes avec les libéraux fédéraux. Il a voulu...
Promoteur de courses électroniques.
Oui, puis ça...
Électrique.
Il l'avalait mal.
Il
l'a
regretté, oui.
Mais il a dit, pogné un électrochoc cette fois-là, parce que depuis ce temps-là, il dérape pas à peu près, parce qu'il a demandé, il aurait voulu être sur les rangs pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Il a été refusé, on sait pourquoi. Oui. Il devrait commencer par payer ses taxes, ça veut dire de s'impliquer sur la scène publique, de donner l'exemple d'une part, ça c'est une chose.
Apparemment que c'est fait.
Ben là, il dit tout le temps que l'argent est de côté, mais puis c'est du salissage.
Ouais.
Mais ça, il connaît ce qui se passe. Il connaît le tabac, comme dirait l'autre, au niveau des médias. Mais là, d'arriver à dire... Tu sais, moi, je vais pas contredire ce que j'ai dit à ce même micro. Je n'avais parlé avec Claude Fournel à l'époque en disant, oui, je suis content que Duhaime se présente, puis ça ferait une parole de plus à l'Assemblée nationale, ça brasse les quatre. Moi, j'appelle ça de la démocratie. Que je sois pour ou contre le programme de Duhaime, là, j'en suis pas là. La démocratie. Coderre a mentionné ça aux journalistes, la démocratie.
Oui, c'est son argumentaire.
Sauf que quand tu grattes, là, puis c'est de la peinture rouge, il a dit d'ailleurs aux journalistes l'épais qu'il avait encore ses cartes de Parti libéral, et là, il invite les libéraux à voter pour Éric Duhaime. C'est carrément d'être en guerre contre le Parti libéral du Québec, tout simplement, c'est qu'il est revancheur.
C'est la revanche.
Oui, et ça démontre comme quoi ils ont bien fait de ne pas l'engager pour être le chef. Je n'aurais pas voulu avoir ça comme PM au Québec.
Donc, de la petite politique.
Bien, en tout cas, c'est... Je vais te dire, c'est du vieux temps, là.
On va écouter peut-être un extrait sonore là, que j'ai gardé de cette histoire-là.
Avant d'être des libéraux ou des conservateurs, des fédéralistes, des souverainistes ou des autonomistes, d'être de gauche ou de droite... On est tous des démocrates. Il faut être capable de serrer les coudes comme démocrate au Québec. Et aujourd'hui, de voir un gars comme Denis Coderre qui est capable de mettre la partisanerie de côté puis qui est capable de s'élever pour défendre la démocratie, mais je peux juste élever mon chapeau.
À ton avis, ça peut nuire à M. Duhaime?
Bien, ça dépend comment Duhaime va composer avec ça. Là, c'était un cadeau qui lui était remis. Duhaime doit tabler sur le fait que quand Coderre a décidé de se présenter à la chefferie des libéraux provinciaux, qu'il y a quand même des gens qui votaient pour lui, donc dire « je vais peut-être ramasser ces gens-là ». Mais M. Coderre, si jamais des gens écoutent et tout ça, je parlais avec le maire de Joliette hier, et dans mon quartier... il va y avoir un poste disponible. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez appeler Pierre-Luc, le maire de Joliette. Pierre-Luc, c'est un cadeau que je lui envoie.
Vous en serez reconnaissant.
Oui, je suis persuadé.
Un gros merci à Yves Perron, député belge. Bonjour, Jacques, merci. Yves Perron était avec nous, député fédéral de Berthier-Masquilongé, Odette Sarrazin, la présidente des Amis de l'environnement de Brandon, Louis-Pierre Côté, porte-parole de l'Association des professionnels du chauffage d'appoint, Caroline Babin, la présidente du Festival Culture Expo Rive-Nord, Hugo Deligny, président de Hugo Cycle, Merci à François Morin, Régent Turgeon, Jacques Plante, Nicolas Bellemare, Claude Fournel. Ici Michel Arnoy qui vous donne rendez-vous lundi prochain.